Un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Le PS2R a été présenté ce matin par 6 membres du gouvernement collégial et vise à reconstruire, mais aussi à refonder le modèle économique et social calédonien. Le juge des référés a rejeté la requête de la chefferie de Saint-Louis demandant la levée du verrou de la RP1. Le caractère d'urgence, notamment, n'a pas été retenu par le tribunal administratif. Une organisation criminelle sous la houlette de Christian Théin, c'est la définition des émeutes déclenchées le 13 mai dernier par le procureur de la République, Yves Dupas. La Nouvelle-Calédonie était au cœur des premiers travaux du Forum des îles du Pacifique. Il s'est ouvert hier à Tonga. Reprise des cours ce matin pour les élèves de seconde année de CAP du lycée Petro Atiti. Une reprise progressive et dans un autre environnement. Et puis du sport, les Calédoniens Julien Delrieux et Alexandre Bressis ont remporté le Taui Ferry Swim Run à Mouria. Ils ont remporté la course XL de 35 km en 4 heures, 5 minutes et 21 secondes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Sauvegarder, refondre et reconstruire, ce sont les trois piliers de la démarche entreprise par le gouvernement pour rebâtir la Nouvelle-Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Pour tenter d'aller de l'avant, un plan intitulé PS2R a été présenté ce matin par 6 membres du gouvernement collégial et il a beaucoup été question, Gilles Ménage, de changement de modèle.
Après 3 décennies de paix et de développement, la crise Covid puis la crise mondiale liée à la guerre du nickel avait déjà fragilisé l'économie calédonienne. La crise insurrectionnelle du 13 mai, les destructions, les incendies et les pillages ont conduit le territoire au bord du gouffre. Et pour éviter la chute, il faut quasiment tout remettre en question, repenser le modèle de fonctionnement d'une Nouvelle-Calédonie qui, pendant des années, a vécu, entre guillemets, au-dessus de ses moyens. C'est en substance le message délivré de manière collégiale ce matin par les 6 membres du gouvernement qui présentaient cette démarche. Un plan en 3 étapes avec d'abord les mesures d'urgence destinées à sauver le système de santé, le système électrique, les retraites, les transports, les salariés, les associations, le pouvoir d'achat ou encore à résoudre les urgences alimentaires. Mais ces mesures, déjà partiellement engagées par le Congrès, doivent s'accompagner d'efforts beaucoup plus conséquents, explique Christopher Gigès.
L'idée de ce plan, donc avec la partie refondation et reconstruction, c'est d'aller très loin dans des réformes, d'avoir un nouveau modèle économique et social, un nouveau modèle institutionnel, un nouveau modèle sociétal pour qu'on puisse faire avancer la Nouvelle-Calédonie après cette période qui reste compliquée. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer les infrastructures que nous avions par le passé. Brûler des entreprises, casser des emplois, ça a des impacts sur notamment sur les plus fragiles. Donc oui, maintenant, il va falloir refonder, reconstruire, relancer notre économie calédonienne. Ça passera par des mesures incitatives, des mesures d'aide au pouvoir d'achat, des mesures de soutien. Mais il va falloir recréer de la richesse pour avoir un système de solidarité qui est à la hauteur de celui qu'on a eu par le passé.
Il faut donc, selon le gouvernement, repenser le modèle calédonien. Pas forcément dépenser moins d'argent, selon Yannick Slamette, mais le dépenser mieux.
La situation du pays, elle est telle qu'à un moment donné, il faut avoir une réflexion sur ce que l'on paye et sur ce que l'on dépense. Je ne suis pas persuadé, moi, que le volume aujourd'hui de finances que l'on consacre au fonctionnement du pays soit bien utilisé. Je pense que c'est plutôt de dire, avec des moyens financiers constants, peut-être ce qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être de pouvoir faire mieux. Mais il y aura quand même des sacrifices structurels. Plusieurs structures font sûrement double emploi, ou peut-être qu'elles gagneraient à être complémentaires. Ça, ce sont des sacrifices de comportement. Moi, je ne parle pas de sacrifices financiers, il est possible que l'on en fasse, mais je pense qu'il y a peut-être une organisation meilleure à faire, aussi bien dans l'administration que dans les structures, que dans les provinces, que dans les communes. Oui.
Il va donc falloir rationaliser, et cela est vrai dans tous les secteurs de la vie économique institutionnelle. Qui sait par exemple qu'il y a en Nouvelle-Calédonie pas moins de 130 impôts différents dont on ne sait pas pour certains ni à quoi ils servent, ni pourquoi ils ont été créés. Et selon l'exécutif, la rationalisation doit également s'appliquer dans la gestion du foncier ou dans celle du système de santé. En matière institutionnelle, il est nécessaire de réduire le nombre de sociétés publiques, de fusionner des directions, de simplifier la gestion des compétences. Mais pour faire tout cela, il est nécessaire de dépasser les clivages politiques, explique Thierry Santa.
Malgré ce que nous avons vécu tous, malgré ce lien distendu entre nous après les événements du 13 mai, nous sommes capables, malgré tout, de continuer à travailler ensemble dès lors qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays, nous devons être capables de mettre de côté nos logiques antagonistes traditionnelles, indépendantistes, non indépendantistes, et qu'ensemble, on envisage les meilleures solutions pour les Calédoniens. Et ce faisant, on est quelque part dans la même démarche que font nos parlementaires, puisque vous le savez, hein, ils font un certain nombre de démarches en commun. Et donc c'est une manière d'inciter tout responsable politique, à quelque niveau qu'il se trouve, de reprendre les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Ce plan qui va être accompagné techniquement par l'État, notamment par des juristes et des fonctionnaires de Bercy, a pour vocation à lui être transmis fin octobre, c'est-à-dire avant le vote de la loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale. Notez que les Calédoniens seront invités à donner leur avis sur les solutions à apporter à travers un questionnaire en ligne qui sera ouvert à partir de demain jusqu'au 19 septembre sur le site du gouvernement.
Le juge des référés rejette la requête de la chefferie de Saint-Louis qui demandait la levée des verrous sur la RP1. La juridiction administrative considère d'une part que la notion d'urgence à lever ces verrous n'est pas justifiée et d'autre part que le rétablissement de la sécurité des usagers de la route provinciale était prioritaire. Un jugement qui satisfait bien sûr les représentants de l'État, Elisabeth Noir.
C'est samedi le 24 août que les autorités coutumières de la tribu de Saint-Louis ont saisi le juge des référés pour réclamer l'ouverture de l'accès à la RP1 à la hauteur de la tribu. Dans leur requête, elles dénonçaient l'interdiction imposée par le haut-commissaire à toute la population de la tribu d'entrer et de sortir sans autorisation. Depuis le 20 juillet, en effet, deux verrous de gendarmerie sont installés en amont et en aval de la tribu de Saint-Louis pour protéger l'axe qui a été le théâtre de nombreuses exactions et affrontements depuis le mois de mai. Ce dispositif exceptionnel a été mis en place par la gendarmerie parce qu'il était impossible d'assurer la sécurité sur la RP1 où les automobilistes étaient victimes régulièrement de carjacking et de coups de feu. Pour autant, les requérants demandaient la levée en urgence de ces verrous dont ils estimaient la légalité douteuse. Une requête rejetée donc par le juge des référés. La réaction du secrétaire général du Haut-Commissariat, Stanislas Alfonsi.
Même s'il n'est pas de coutume, il n'est pas usuel de commenter une décision de justice, on ne peut de notre côté qu'être satisfait, que la justice ait reconnu que nous avons dû, de manière très spécifique, dans un endroit où des conditions très spécifiques sont constatées, mettre en œuvre des dispositifs inusuels. C'est une restriction de la liberté de circulation, nous en sommes conscients, ça n'est pas une interdiction de circuler qui est posée par ce dispositif, mais nous devons impérativement concilier cette liberté fondamentale de circuler avec une autre liberté fondamentale qui est le droit à la sécurité. Et à cet endroit, la sécurité des usagers, la sécurité des riverains n'est pas garantie sur cet axe, en tout cas sur ces quelques kilomètres de la route provinciale numéro 1. Et c'est pour ça que les verrous sont indispensables aujourd'hui. Nous n'avons pas de solution alternative. C'est une solution qui n'est pas pleinement satisfaisante. Nous avons parfaitement conscience des contraintes que cela représente. Néanmoins, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui. Et la justice, dans une certaine mesure, a compris ce difficile exercice d'équilibriste.
Le juge des référés rejette la requête de la chefferie de Saint-Louis, mais il s'agit d'un référé liberté rendu en urgence. L'affaire n'est pas forcément terminée, puisque les requérants peuvent bien sûr faire appel.
Le juge des référés était appelé à statuer dans un délai de 48 heures au maximum après sa saisine. C'est pour ça que nous avons eu cette audience lundi matin très tôt, à la première heure. Et ensuite, après cette audience, il a 24 heures pour rendre son jugement. À la suite de cela, un appel est possible. Les requérants peuvent éventuellement considérer que le juge a mal jugé et faire appel devant le Conseil d'État. S'il le fait, eh bien, nous irons plaider, le ministère de l'Intérieur ira plaider devant le Conseil d'État. S'il ne le fait pas, le requérant a tout de même la possibilité, et d'ailleurs c'est le cas, de déposer une requête au fond. Et à ce moment-là, le tribunal statuera en se donnant davantage le temps et en s'efforçant de recueillir le plus d'informations possible pour pouvoir donner une décision plus circonstanciée et non pas rendue sous le sceau de l'urgence, puisque c'était ça la principale question qui était posée au tribunal. Faut-il, dans l'urgence, agir pour lever le dispositif? Donc sur l'urgence, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas urgence, mais par contre le tribunal, saisi au fond, pourra prendre une décision qui sera de la même nature ou d'une autre nature.
Les verrous de Saint-Louis sont un dispositif exceptionnel, tout le monde en convient. Nous avons demandé au secrétaire général quelles étaient les conditions pour la levée de ces verrous.
Personne ne peut se satisfaire de cette situation-là. Les verrous sont un problème pour les gens de Saint-Louis, sont un problème pour les gens du Mont-d'Or-Sud, sont un problème pour les gens de Yaté, sont un problème pour tout le monde. Et sont un problème pour l'État aussi, disons-le. Évidemment, de pouvoir les lever, et nous les lèverons dès que possible. Mais pour que ce soit possible, il faut que la sécurité sur l'axe soit établie. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Lorsqu'on fait des tests et qu'on essaie de faire circuler des véhicules, par exemple des véhicules de gendarmerie, ils sont pris à partie de manière très violente et ils sont l'objet de tirs directs. Alors, ce sont des véhicules qui sont équipés pour faire face à ce genre de contraintes, bah, évidemment, mais ça reste un risque très très élevé et donc on ne peut pas faire courir ce risque à des riverains et à des civils. Donc, tant que la sécurité n'est pas rétablie sur l'axe, tant qu'elle n'est pas garantie, du côté de l'État, nous ferons ce que nous pourrons pour empêcher la circulation à cet endroit. Nous n'avons pas d'autre choix. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on y est obligé. C'est agir en toute responsabilité. Eh bien, en toute responsabilité, parfois, on pose des actes et des actions qui ne sont pas pleinement satisfaisants, mais quand on n'a pas d'autre choix, les responsabilités, on les prend.
Et dans un communiqué, le haut-commissaire prend acte de ce jugement référé et il réaffirme son soutien à l'ensemble des habitants du Mont d'Or, victimes de cette situation d'insécurité créée, et je cite, par des individus irresponsables et très dangereux. Tout sera fait pour rétablir la sécurité sur la route provinciale, conclut Louis Lefranc.
À noter encore que le référé introduit devant le tribunal administratif par des bénéficiaires de l'aide médicale gratuite. L'AMG a été rejeté. Il visait à suspendre l'instauration d'un ticket modérateur de 10 à 20%. Le caractère d'urgence n'a là non plus pas été retenu. Le traitement judiciaire des émeutes est un véritable marathon judiciaire, nous a dit le procureur de la République Yves Dupas, qui était notre invité ce matin. Il a pour l'instant abouti à 2025 gardes à vue, 411 déferrements, 196 incarcérations, 258 comparutions immédiates et 558 convocations en justice. La stratégie du parquet est de poursuivre tous les auteurs, quel que soit leur degré d'implication. Et en ce qui concerne les commanditaires présumés de l'insurrection, l'enquête se poursuit, précise le procureur de la République.
L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité de deux magistrats instructeurs. Vous savez que nous en sommes aujourd'hui à 13 personnes mises en examen. Et bien évidemment, les enquêteurs, sous l'autorité de ces deux magistrats instructeurs, poursuivent leurs investigations, visant bien sûr à exploiter l'ensemble des éléments dans ce dossier, visant bien sûr à cerner l'étendue des agissements de chacune des personnes mises en examen actuellement, et puis visant aussi à identifier d'autres commanditaires, puisque dans une organisation criminelle telle que celle orchestrée, mise en place par Christian Théin, eh bien, il est possible que nous ayons affaire aussi à d'autres commanditaires qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui ont pu dissimuler leurs agissements de manière habile, qui peuvent être des superviseurs, bien évidemment.
Quant à la théorie avancée selon laquelle la CCAT a été débordée par des bandes de jeunes excités, Yves Dupas n'y croit pas du tout.
Cette approche n'est pas du tout conforme, en tout cas, aux éléments de notre enquête centrale. Moi, je rappellerai quand même que le 8 mai 2024, Christian Théin a fait un certain nombre de déclarations en disant « on va se mettre hors la loi ». Il va falloir s'attaquer aux banques, aux assurances, aux multinationales. Comme par hasard, 5 jours après, toute une série de structures économiques étaient visées, étaient ciblées à la fois par des pillages et des incendies. Bref, la Nouvelle-Calédonie est à genoux. Elle est à genoux d'abord au plan humain avec 11 morts aujourd'hui, des centaines de blessés parmi notamment les forces de l'ordre. Elle est à genoux au niveau économique et social, on le voit bien évidemment. Cette situation, elle relève d'un plan d'action défini par une organisation criminelle, tout simplement.
Yves Dupas qui précise que dans le cas où les gendarmes font usage de leur arme Comacchio le 15 août dernier, la justice vérifie systématiquement que le cadre légal a été respecté. Quant au dossier de Saint-Louis, il est particulièrement complexe, reconnaît Yves Dupas qui estime qu'il faudra un an pour traiter les dossiers liés aux émeutes. Au Mont d'Or encore, l'isolement des habitants du sud de la commune perdure. Il n'est pas que physique. De nombreux foyers sont privés de services internet et téléphoniques depuis plusieurs semaines. Une situation qui s'améliore puisque les équipes techniques de l'OPT ont pu accéder à la zone. Le 21 août, 12 lignes fixes ont été réparées. Les précisions de Véronique Lacrosse, directrice adjointe Télécom en charge du pôle expérience client.
Oui, l'intervention s'est déroulée sur 4 jours. On a dû affréter une barge pour transférer un véhicule et du matériel. Et on a 2 techniciens qui ont pris la navette maritime donc tous les jours pour pouvoir procéder au dérangement de ces 12 clients qu'on avait mis en priorité. Il y avait beaucoup de câbles qui étaient un peu décrochés qu'il a fallu refixer. On n'a pas pu intervenir de façon plus efficace compte tenu de la RP1 qui est bloquée. Pour emmener du matériel, c'est compliqué aussi bien pour nous que pour nos équipes sous-traitantes. Voilà, les clients sont quand même très compréhensifs. Ils comprennent qu'on a des difficultés pour se déplacer sur zone.
24 foyers sont toujours privés de réseau internet et téléphonique au Mont d'Or Sud. Au chapitre des faits divers à Païta, cet accident de la circulation survenu aux environs de 16h20 sur la Save Express dans le sens sud-nord au niveau de Savannah. 4 véhicules étaient en cause. Les pompiers et les gendarmes sont toujours sur place. La circulation s'effectue sur une seule voie. On ne sait pas encore s'il y a des blessés. Soyez prudents si vous circulez sur cette zone. Un véhicule a pris feu cette nuit à la deuxième vallée du Tir. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer l'origine de l'incendie. Et puis ce matin, c'est à la trésorerie de Conné qu'une tentative d'incendie a eu lieu. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte criminel. Les pompiers ont été envoyés sur place, mais ils n'ont pas constaté de dégâts significatifs. Une enquête est en cours. Il est 18h01. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité. On parlera d'abord du Forum des îles du Pacifique qui s'est ouvert hier à Tonga. A tout de suite.
RRB. Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse, rrb@rrb.nc. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Il a été question de la Nouvelle-Calédonie lors du Forum des îles du Pacifique qui s'est ouvert hier à Tonga, un forum qui a pour thème principal les enjeux du réchauffement climatique et ses conséquences pour les îles du Pacifique. Mais en marge des travaux, les trois premiers ministres des États insulaires qui devaient mener une mission d'observation en Calédonie se sont exprimés sur le sujet. Ils ont formé le vœu de trouver une solution à la crise qui secoue le territoire. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a déclaré que, je le cite, « le forum est très sérieux dans sa volonté de trouver un moyen de désamorcer la situation en Nouvelle-Calédonie. Nous espérons qu'en marge du sommet, a-t-il poursuivi, nous pourrons dialoguer avec la France et la Nouvelle-Calédonie avant la retraite des dirigeants du forum prévue vendredi. » Le premier ministre des îles Cook et ancien président tournant du forum, Mark Brown, a rappelé de son côté que, je cite, « une partie de notre mission consistait à plaider avec force en faveur de la désescalade de la violence, d'introduire un dialogue entre toutes les parties concernées, puis à travailler sur une voie à suivre pour la Nouvelle-Calédonie. » Notre vision est pour un Pacifique de paix et d'unité, a quant à lui affirmé le Premier ministre des îles Fidji, Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, trouvez-vous normal que l'Azerbaïdjan soit présente au 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tient à Tonga? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 60% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être confiants dans la démarche unitaire entamée par les partisans du maintien dans la France pour présenter un projet commun dans la perspective de la reprise des discussions sur l'avenir. Ils sont à l'inverse, 40% à se montrer confiants. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sera de nouveau réuni demain matin en séance publique. Les élus examineront pour la deuxième fois la proposition de résolution déposée par Calédonie Ensemble, demandant à l'État un plan quinquennal d'accompagnement pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Jeudi dernier, le groupe Les Loyalistes avait obtenu le vote d'une motion préjudicielle destinée à renvoyer le texte en commission afin de tenir compte dans la rédaction de toutes les sensibilités politiques et d'obtenir l'unanimité du vote. Et puis c'est jeudi 29 août qu'a lieu le renouvellement du président et du bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Roch Wamiton devrait être candidat à sa propre succession. Et face à lui, les loyalistes présenteront la candidature de Naya Watiau. Pourquoi se présente-t-elle? Quel est le message qu'elle veut transmettre? Quelle est son analyse du fonctionnement du Congrès? Nous en parlerons demain avec elle. Naya Watihou sera notre invitée du matin à 7h30. L'Institut agronomique néo-calédonien se relève doucement. En mai dernier, les émeutiers de la CCAT avaient saccagé les locaux situés à Port-la-Guerre. Après un mois de pause, les équipes ont pu reprendre leurs activités, non sans mal, car les subventions manquent cruellement, Charlotte Coulson.
Des portes, des fenêtres et du matériel cassé, 7 voitures volées ou détruites, ainsi que 2 docks entièrement brûlés. Ce sont tous 68 millions de dégâts que l'Institut a subis en mai dernier. L'organisme de recherche est aujourd'hui dans une situation de grande difficulté financière. Il fait face à de nombreux retards de financement et n'a d'autre choix que de réduire sa masse salariale, comme l'explique Laurent L'Huillier, directeur général de l'IAC.
Alors, les impacts directs dus à ces dégradations, c'est déjà les réparations et les vols, comme je le disais. Également, un retard de versement de subventions des collectivités que nous ne sommes pas sûrs d'avoir en totalité. Le budget annuel de l'IAC, c'est environ 500 millions, essentiellement dû à des subventions des collectivités membres, c'est-à-dire l'État, la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces. Et nous avons une partie des subventions qui ne sont pas versées, environ un tiers qui nous manque au jour d'aujourd'hui de ces subventions. On fonctionne encore grâce à un petit peu de trésorerie qui nous reste jusqu'à début novembre. On a réduit déjà la masse salariale et les effectifs depuis plusieurs années. Cette tendance, on l'a accentuée évidemment depuis le mois de mai. On a dû arrêter encore d'autres CDD et puis les prochains départs d'agents ne seront pas renouvelés du tout, ça c'est sûr. Et on essaye même d'accélérer et d'accompagner les prochains départs dans les prochains mois pour réduire encore cette masse salariale.
Ils sont aujourd'hui 46 à travailler à l'Institut et ne baissent pour autant pas les bras. Les équipes ont pu reprendre leurs activités après un mois de pause. 30 projets étaient en cours avant les exactions du mois de mai et sont aujourd'hui maintenus.
S'agissant des projets, aujourd'hui ils sont tous maintenus en cours. On n'a pas l'intention de se désister, de se désengager. On a la volonté et on s'organise pour maintenir et continuer ces projets. On a même l'intention de continuer à répondre à des appels à projets. On vient de clore par exemple, hier nous avons fait une restitution à la province des îles sur l'inventaire des populations de Santal sur les îles Loyauté. Il n'y a aucune volonté des membres affichés au jour d'aujourd'hui pour dissoudre l'IAC. Au contraire, on a plutôt des messages d'encouragement à faire le mieux possible. L'IAC existe depuis longtemps, ça fait 25 ans environ. La création de l'IAC remonte à 1999. Voilà, donc on est dans une période d'adaptation assez contrainte pour espérer rebondir assez vite.
Et rappelons que l'Institut travaille actuellement sur des projets tels que l'adaptation des cultures et des pratiques agricoles face au changement climatique. Il développe également un vaccin contre la tique du bétail. Son importance dans le développement du monde rural est donc plus que reconnue.
Le lycée Petro Atiti a été saccagé et ne peut donc plus accueillir d'élèves. Certains ont été replacés dans différents établissements qui proposaient les mêmes formations. La ville de Nouméa met désormais à disposition l'école Morissette de Vembé et ce matin, c'était la rentrée d'une partie des élèves. Charlotte.
Oui, ce sont les élèves de seconde année de CAP qui ont repris les cours ce matin. Cet après-midi, c'était au tour des élèves de terminale CAP Bac Pro et enfin jeudi après-midi, les classes de première Bac Pro. Des demi-journées dites de prise de contact avant que la semaine prochaine, tout le monde ne reprenne à temps plein. Les enseignants et surtout les élèves avaient hâte de retourner en cours. Jean-Luc Barnier, proviseur du lycée Petro Atiti.
Être à la maison, ne pas venir au lycée les premiers jours, c'est sans doute appréciable, mais très vite, les camarades manquent et puis il y a leur formation qui est quand même en jeu. Les enseignants, bon, la plupart avaient déjà fait la rentrée dans d'autres établissements, mais pas forcément dans les mêmes, donc ils sont aussi contents de se retrouver. On a du soleil, donc voilà. Aujourd'hui, la satisfaction qui règne, un esprit plutôt joyeux.
Une solution à court terme pour les élèves qui termineront leur année dans l'école primaire sans avoir accès aux ateliers. Des réflexions sont notamment en cours pour qu'ils puissent pratiquer d'ici la fin de l'année scolaire. Mais Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de l'éducation, confirme que les problématiques sont nombreuses.
Alors on a trois types de problématiques. On a la problématique des transports, donc on travaille avec les autorités compétentes, mais pour l'instant, et notamment pour des raisons de sécurité, le réseau n'est pas remis en place. Donc effectivement, certains élèves ont des problèmes d'accès. Notre deuxième problématique, c'est la problématique de l'hébergement, puisqu'au lycée, nous avions aussi un internat. Il a été très dégradé, donc pour l'instant, nos internes n'ont pas accès à cette solution de logement. Et la troisième problématique, ça c'est une problématique pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de trouver les fonds nécessaires pour rénover certains locaux de Petro Atiti. Et pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité sur ce point. On a fait une demande à l'État pour avoir une aide sur ce sujet.
La rentrée a pu se faire ce matin à l'école Morissette de Vembé grâce notamment à l'opération logistique menée par le RSMA et les FANC. Il y a quelques jours, ils ont équipé les salles de classe avec du matériel récupéré au lycée Petro Atiti.
Le secteur du handicap a lui aussi beaucoup souffert de la crise insurrectionnelle. Comment les institutions et les associations en charge du handicap vivent ses conséquences? C'était le thème de notre magazine citoyen ce midi. Nous étions notamment en compagnie de Jean Sausset, président du collectif handicap, qui estime que le secteur a besoin d'un soutien d'urgence.
On ne peut pas imaginer comme ça, au premier regard, tout ce que ça a pu impliquer de difficultés dans la vie de tous les jours, notamment pour ce public, ce secteur du handicap. Donc, il y a des choses qui sont faites. Là, en ce moment, on est en train de réunir toutes les associations par le biais de la FOL pour essayer de faire une liste des problèmes et pour récolter des fonds peut-être à l'extérieur du territoire. Pour les associations, parce que l'ensemble des associations, on sait pertinemment qu'on va commencer à taper dans le dur en octobre-novembre et que si on ne fait rien, à la fin 2024, début 2025, toutes les associations, il y en a 13 200 aujourd'hui sur le territoire, toutes les associations vont en pâtir et certaines, notamment les nôtres où il y a beaucoup de bénévoles mais pas beaucoup de moyens financiers, elles vont mourir.
Dans le secteur du handicap, comme dans tant d'autres, le tissu associatif est essentiel et l'esprit de solidarité qui va avec. Mais dans ce domaine aussi, il va falloir faire des économies structurelles, explique Cyrielle Cabard, directrice du JIP Handicap, Dépendance et Bien Vieillir.
Moi, je reste optimiste quand même parce qu'on évolue dans une société en Calédonie où les gens sont solidaires, où on vit dans une société où on partage. Dans ma vie personnelle, je fais partie d'un club de service avec M. Sausset, justement, le Kiwanis, au service des enfants du monde. Et on le voit, les Océaniens, ils sont généreux. Quand on fait des levées de fonds, quand on fait des actions, on a ce sentiment-là. Et je pense qu'il faut rester optimiste. Mais demain, c'est sûr qu'il faudra faire des économies et peut-être, oui, passer par une mutualisation de plusieurs services.
Et nous étions également en compagnie de Jean-Philippe Roux de l'Association des diabétiques et Dominique Tribali de la SEAD, l'Association pour le soutien des enfants déficients, un magazine présenté par Gilles Ménage que vous pouvez retrouver en audio sur notre site internet. La foi met à l'honneur l'eau à l'occasion d'une semaine mondiale qui lui est consacrée, organisée chaque année à Stockholm. Cet événement vise à discuter des différents enjeux autour de l'eau et à se tourner vers une agriculture raisonnée. En Nouvelle-Calédonie, ces actions sont relayées par le Conseil de l'eau de la foi. Le thème de cette année est l'eau pour un avenir pacifique et durable. Demain, des activités seront organisées autour du barrage anti-sel de la foi. L'entrée est libre et gratuite pour toutes les activités proposées durant la semaine. Le programme est à retrouver sur la page Facebook de l'événement. 18h13, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de parler de sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 000 000 de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicités, programmation, avis de décès, avis et communiqués, une seule adresse, rrb@rrb.nc. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et le sport, Isabelle Pelletier.
Oui, avec 300 athlètes qui ont participé en binôme au Tahuati Ferry Swim Run à Moorea. Et à l'arrivée, ce sont des Calédoniens qui l'ont emporté, Jean-François Baudin.
Oui, malgré une météo difficile, avec beaucoup de vent d'ailleurs. Les athlètes se sont élancés depuis le Tahuati Ferry. Deux courses étaient au programme, une course XL de 35 km et une course de 13 km. Sur la course Rennes, c'est donc un binôme calédonien qui s'est imposé. Julien Delrieux et Alexandre Bressy ont rallié l'arrivée en 4h5 minutes et 21 secondes. Une course difficile, mais surtout une bonne surprise pour le duo.
C'était un peu compliqué, le courant, on ne s'attendait pas à ça, parce que pour l'instant, nous, on nage uniquement en eau douce par Calédonie, donc il n'y a pas de courant, c'est des lacs, c'est tranquille, donc ça perturbe un peu au début. Bon, et on a eu un peu peur de ne pas réussir à tenir les Tahitiens qui sont plus habitués, forcément, c'est leur terrain. Mais voilà, mon partenaire qui est bien plus solide que moi, je pense que ça se voit, a fait un job de malade. Et on a réussi à être distancé, on finit premier, donc c'est une super, super surprise et une grande joie pour nous deux. C'est un grand bonheur.
Voilà donc pour cette victoire du duo calédonien Julien Delrieux, Alexandre Bressy. Puis à propos de course en pleine nature, la prochaine ce sera sur le territoire et ce sera le week-end prochain avec le Yala Trail. Ce sera à Dumbéa.
Et puis sur le territoire du tennis, aujourd'hui avec les dernières finales de l'Open du Rissimink, Jean-François.
Et d'ailleurs, la finale double est en cours. Elle a débuté à 18h. Thomas Buisson et Alexandre Miro sont opposés à Pierre Drouet et Stéphane Johnston. Dans la foulée, aux alentours de 19h30, place à la finale double mixte avec de nouveau Alexandre Miro. Cette fois-ci, il sera associé à Lysiane Motonikiriai. Ils affronteront la paire Stéphanie Dilucho, Frédéric Stotz.
Merci beaucoup Jean-François. Il est 18h16, c'est presque la fin de ce journal. On va passer maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, bien sûr, avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel sera bien étoilé sur l'ouest. Ailleurs, il redeviendra souvent nuageux et quelques gouttes seront possibles par endroits. Le vent s'orientera progressivement est à est-sud-est. En cours de nuit, il mouillera entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest et de 10 à 15 nœuds ailleurs, excepté sur la pointe nord où il se maintiendra entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales seront stables, généralement comprises entre 17 et 21 degrés localement et 12 à 15 degrés sur l'ouest et marais. Demain matin, le soleil dominera largement avec temporairement quelques nuages qui aborderont la pointe sud, les Loyautés et la côte est. L'alizée d'est-sud-est s'établira entre 15 et 20 nœuds. Il sera plus faible en matinée sur le sud et l'ouest, entre 10 et 15 nœuds, voire 5 à 10 nœuds. En début de journée, ce sera sur l'ouest, Isabelle.